Ça marche. Bonjour à tous. Merci Pierre pour insister à les dernières 10 minutes d'écouter Dieu, parce que ça, c'est une partie de la prédication aujourd'hui. Aujourd'hui, je veux parler sur les dons dans l'Église. Nous sommes toujours dans la série de qu'est-ce qu'il est l'Église. Et aujourd'hui, je veux parler sur les dons dans l'Église, pas juste les dons pour chacun entre nous, mais qu'est-ce qu'il est les dons dans l'Église. Nous parlons de ces dons spirituels, nous mettons normalement l'accent sur eux d'un point de vue personnel. Mais aujourd'hui, je vais prendre une relais un peu distant et parler sur l'Église, parce que nous sommes tous ensemble. Nous connaissons tous les différents dons d'esprit. Nous pouvons les trouver à de nombreux endroits dans la Bible. Le texte le plus couramment utilisé est probablement 1 Corinthiens 12, versets 8 à 10. L'Esprit donne à l'âne de parler selon la sagesse, et à un autre, le même Esprit donne de parler selon la connaissance. Ce seul et même Esprit donne à une foi exceptionnelle et à un autre le pouvoir de guérir les malades. L'Esprit accorde à l'âne de pouvoir accomplir des miracles, à un autre le don de transmettre des messages reçus de Dieu, à un autre encore la capacité de distinguer les faux esprits de le véritable esprit. À l'âne, il donne la possibilité de parler en des langues inconnues et à l'autre la possibilité d'interpréter ces langues. C'est le seul et même esprit qui produit tout cela. Il accorde à chacun un don différent comme il le veut. Je vais utiliser beaucoup des textes sur 1 Corinthiens 12 et 14 aujourd'hui. Je le cite dans la prédication, ce n'est pas nécessaire de trouver dans la Bible, mais si tu veux, c'est bien. Il y a quelques points que je veux dire à propos de ce verset. Le premier, il n'y a pas d'ordre de priorité ou de préférence pour les dons. Ils sont tous là ensemble. Bien que Paul parle un peu plus tard en chapitre 14 de la recherche des dons préférentiels, ce qui fait allusion à des dons peut-être plus importants, je n'ai pas étudié davantage dans cette direction en préparant pour aujourd'hui, mais c'est quelque chose un peu différent que la chose que je veux dire aujourd'hui. Okay? Ce n'est pas de différence entre les dons. Ce sont le deuxième point. Ce sont des dons spirituels qui ne viennent pas de l'homme, mais du Saint-Esprit. Lorsque vous devenez chrétien et que vous êtes baptisé dans l'Esprit, vous avez accès à ces dons. Je parlerai un peu plus de cela un peu plus tard. Le troisième, l'Église ne peut pas fonctionner pleinement sans ces dons. Ils sont cruciaux pour la vie de l'Église. Ça, c'est clair. Le quatrième point, le plus important, c'est le dernier verset qui dit qu'il donne à chacun un don différent. Cela signifie que chacun d'entre nous, dans cette salle, a accès à ces dons spirituels. chacun d'entre nous. Personne n'est laissé de côté. Je me tiendrai aussi un peu sur ces sujets plus tard. Merci Pierre pour insister sur ça. Le livre de Corinthiens a été écrit par Paul pour corriger l'église de Corinthe dans ses activités. En ce qui concerne le don de l'esprit, l'église de Corinthe avait été remplie de l'esprit et les gens exerçaient les dons de l'esprit en toute plénitude. Ce qui préoccupait Paul le plus, c'est que malgré le fait qu'ils exercent les dons, ils n'avaient pas été enseignés correctement à le sujet. Ils ont reçu l'accès de les dons, ils ont pratiqué, mais ils n'ont pas la connaissance de l'utiliser bien. Il leur a donc écrit pour l'instruire à corriger leur manière et la compréhension de ces dons. Ça, c'est pourquoi nous avons accès à beaucoup d'informations sur ces dons. Ainsi, pour chacun d'entre vous, je vous exhorte à passer des temps à lire ces chapitres dans la Bible pour mieux comprendre aussi. Parce qu'il y a beaucoup de choses autour de ces dons que je ne veux pas partager aujourd'hui, parce que ce n'est pas le but, mais c'est nécessaire pour mieux comprendre les dons. Chapitres 12 et 14. C'est aussi un rappel qu'il y a une responsabilité ici, dans l'Église, pour les anciens, les responsables, et chaque personne qui enseigne ici dans l'Église, d'enseigner régulièrement sur les dons afin que chaque membre de l'Église puisse fonctionner correctement dans la compréhension de ces dons d'esprit. Je parle de fonctionner correctement. Je ne parle pas d'avoir les dons, mais de fonctionner correctement. Nous ne pouvons pas vous donner les dons. Ça, ce n'est pas possible. Mais nous devons vous apprendre à les utiliser correctement. Ça, c'est le plus important. J'ai mentionné il y a un moment qu'une église ne peut pas fonctionner correctement ou pleinement sans les dons. Beaucoup d'églises aujourd'hui, autour de le monde, ignorent ou limitent l'utilisation des dons dans l'Église. Les utilisent de manière incorrecte ou les tiennent en mauvaise estime. Certaines églises courent après ces dons et concentrer leurs activités uniquement sur les dons de l'esprit. Mon point de vue personnel sur ce sujet est que nous avons réussi à faire quelque chose de mal. Les dons sont une donne, ce n'est pas quelque chose de prendre le temps de chercher, Dieu va donner. Quand il veut, quand il est moment de progresser son ministère. Christ est venu nous sauver de nos péchés. Il est mort et a été enterré, mais a vaincu le tombe afin que nous puissions vivre dans la gloire avec lui. En tant qu'Église, nous devrions donc nous concentrer sur lui et pas les dons. plutôt dans le chapitre 12, Paul nous parle de la seigneurie de Christ, qui n'est révélée que par l'Esprit. L'Esprit nous aide à voir Christ, et c'est donc là que doit se trouver nos yeux. L'Esprit ne se concentre pas sur lui-même, mais sur le Christ. Alors pourquoi devrions-nous concentrer sur l'Esprit? Il a notre regard, pas l'Esprit. Bonne nouvelle, j'ai arrivé assez rapidement à l'un des points les plus importants du message aujourd'hui. Et cela touche à la manière dont nous devrions fonctionner en tant qu'Église, l'Assemblée chrétienne de Marguerite. Nos rassemblements, ici, en tant qu'Église, devraient être centrés sur le Christ. Centrés sur le Christ. Il est le Seigneur. Paul nous dit beaucoup de choses en très peu de mots au début du chapitre 12, verset 3. Il dit « Personne ne peut dire que Jésus est Seigneur si ce n'est pas le Saint-Esprit. » Ici, il ne parle pas seulement des mots verbaux. Il y a de nombreuses façons de dire quelque chose. Mais c'est simplement ce que nous appelons la connaissance de tête. C'est facile de dire quelque chose. Avez-vous déjà, au ces moments où vous parlez avec quelqu'un et qu'il dit quelque chose, et la façon dont il a dit montre qu'il ne croit pas ce qu'il parle ou il dit. C'est facile de voir si quelqu'un comprend et y croire les choses qu'il dit. Tu vois, c'est facile de dire quelque chose et nous voir ça pendant chaque jour dans nos vies. Mais quand quelqu'un croit en quelque chose, tu vois le sentiment dans sa voix, son regard. Paul parlait ici de la véritable révélation, c'est-à-dire de ce que l'Esprit nous a révélé dans notre cœur. Lorsque l'Esprit nous révèle vraiment que le Christ est Seigneur, nous avons la conviction dans nos cœurs que nous savons, que nous savons, que nous savons que le Christ est Seigneur. Et donc, lorsque vous reconnaissez que Christ est Seigneur avec la véritable conviction de votre cœur, avec ce que l'Esprit vous a réveillé, cela débloque quelque chose d'incroyable de la part de Christ. Chaque fois que nous nous réunissons en tant qu'Église pour l'adorer pleinement, en reconnaissant qu'il est le Seigneur de toutes nos vies, en nous offrant à lui dans la confiance et l'obéissance, il agit au milieu de nous par son Esprit. C'est dans son libéré parmi nous, alors qu'il partage avec nous les profondeurs de sagesse et de sa connaissance, qu'il accomplit des miracles et des guérisons, des délivrances, et ainsi de suite. Cela semble très facile. Je parle un peu souvent sur le Covid. Désolé. Covid a reçu des nombreux reproches pour des nombreuses choses que nous voyons autour de nous aujourd'hui. Le monde est certainement très différent que ce qu'il était il y a 2 ans. Nous commençons à voir un certain retour à l'humanité et cela différait un pays de l'autre. Il y a 2 semaines, j'étais en Pays-Bas, pas de masque, pas du tout, les gens sont libres. Cette semaine, j'étais en Madrid, un peu différent, mais les choses commencent à changer. Nous, les chrétiens en général, et je parle de l'Église dans son ensemble, tout le monde, sommes devenus gros et paresseux. J'espère que j'ai le bon mot. Peut-être une déclaration choquante, mais je le crois vraiment. Notre réponse à Covid dans l'Église mondiale a été de courir à la maison et assis devant un écran ou avec un téléphone mobile. Nous avons fait ce qui nous semblait le mieux, bien sûr, mais nous avons oublié quelque chose. Certaines églises ne pouvaient pas ou n'étaient pas équipées de faire ce que nous avons pu faire pendant cette période. Ça, c'est dommage. Nous avons eu la chance d'avoir l'équipe des personnes autour de nous pour y parvenir. Cependant, il est de plus en plus difficile d'ignorer le confort de son propre canapé, la commodité d'être chez soi, à côté de la machine à café. Nous étions isolés en tant que personne et beaucoup de gens se sont tournés vers eux-mêmes pour trouver du confort et de la sécurité. Beaucoup, beaucoup de gens dans l'Église ont réussi à perdre l'acte de participation aux réunions et dans une certaine mesure et dans certaines églises, c'est devenu un simple spectacle comme on voit à la télévision. Ça, c'est vrai. La participation dans l'Église aujourd'hui est beaucoup moins qu'avant. Et ce n'est pas le nombre de personnes, bien sûr, mais aussi la participation de chacun. Je ne dis pas que nous sommes comme ça, bien sûr. Je rapporte ce que j'ai personnellement vu et entendu de différentes personnes dans des églises du monde entier. Ce que je peux dire est vrai ici, à Marguerite, et je crois que nous pouvons tous en convenir, car que nous l'avons tous vu et expérimenté. Le manque distinct, par exemple, de paroles prophétiques dans l'Église. Je m'ajoute également à la liste. J'opérais dans les noms prophétiques, mais je n'ai pas opéré comme je devrais le faire. Ça, c'est sûr. Je ne critique personne et ne blâme personne pour ce qui se passe. Je suis ici aujourd'hui pour vous en corriger, chacun d'entre vous, moi-même, à vous lever de votre chaise et sortir de votre zone de confort et de sécurité, à vous donner à nouveau à la plénitude de Christ. Dans toutes les réunions que nous organisons, autant que l'Église, nous devons venir à la réunion avec l'intention de rencontrer Jésus. Nos cœurs doivent être préparés, ouverts et prêts avant même d'arriver, avant 10 heures. les paroles de Christ en tant que Seigneur sont déjà sur nos lèvres et prêtes à être prononcées. Nous devons arriver prêts et attendre que le Christ manifeste sa présence parmi nous par l'Esprit, que chaque réunion soit remplie d'une effusion de son Esprit et que nous voyons une explosion de ses dons utilisés parmi nous. Nous devrions être capables de sentir l'anticipation et l'excitation de chaque personne autour de nous. Comment devrions-nous nous préparer à venir à l'église chaque week-end, par exemple? Nous devrions commencer par préparer nos cœurs et nos esprits avant même de quitter la maison. Ce n'est pas quelque chose de fait entre la voiture et la porte. Nous devons arriver avec l'espoir de rencontrer le Christ. Et nous devons être libres de le laisser agir parmi nous. Si nous sommes disposés, il utilisera chacun d'entre nous à ses fins pour construire l'Église. Si nous sommes vraiment libres, lorsque son esprit est libéré, nous devrions voir ses dons affluer parmi nous et à travers chacun d'entre nous. Dieu utilise chacun d'entre nous si nous sommes ouverts et disposés. Si nous sommes libres de recevoir son don, il nous le donnera. Chacun de nous peut prophétiser. Chacun de nous peut guérir. Chacun de nous peut faire des miracles, etc. Les dons de l'Esprit ne tombent pas seulement sur certaines personnes, mais ils sont ouverts à tous et ils sont donnés à chacun de nous. Ne confondez pas cela avec les personnes qui opéreraient dans le ministère de la prophétique ou de l'enseignement, par exemple. Ça, c'est quelque chose de différent. Nous parlons ici des dons. Il y a deux aspects à la manifestation des dons. Le premier est le don proprement dit. La nature divine du don. Ils sont surnaturels et ne peuvent venir que de l'Esprit. Je ne peux pas vous le donner. Il ne peut être expliqué par la science ou la philosophie, seulement par la présence de Dieu. Ils viennent souvent dans l'endroit le moins attendu. Il n'est pas nécessaire d'être éduqué ou particulièrement doué pour posséder un don à un moment donné. Ils ne sont pas permanents, mais sont des manifestations de l'Esprit à un moment donné. Le deuxième aspect est l'aspect humain des dons. Oui, il y a un aspect humain. Il veut nous utiliser. Il donne à chacun de nous un don. Il nous permet d'administrer les dons et d'agir. Ainsi, par exemple, le Saint-Esprit nous donne la parole prophétique et c'est la personne humaine qui parle. Ce n'est pas l'Esprit qui parle. L'Esprit ne prend pas le contrôle de la personne et parle. C'est la personne qui parle. Je répète ici, chaque fois que nous nous réunissons, en tant qu'Église et avec l'attente que nous devrons avoir, l'Esprit répartit les dons selon sa volonté. Par conséquent, chaque fois que nous nous réunissons, nous pouvons nous attendre à ce que la manifestation soit différente. Si aujourd'hui, vous avez le don de prophétie, peut-être la prochaine fois, vous aurez le don de miracle ou de guérison. Et une autre fois, peut-être rien. Les dons ne sont jamais limités à un petit groupe de personnes. Corinthiens 14, 31 nous dit que vous pouvez tous prophétiser un par un. Corinthiens 14, 26 dit, quand vous vous réunissez, chacun a un psaume, un enseignement, une langue, une interprétation. Chacun. Ainsi, chaque fois que nous nous réunissons, nous devrions nous attendre, non seulement à rencontrer le Christ et ce que l'Esprit manifeste, sa présence, mais nous devrions nous attendre à une nouvelle onction de son Esprit à chaque fois. Nous devrions être heureux de nous réunir pour voir ce que l'Esprit fera à travers chacun de nous. Une communauté rassemblée devrait être la reine de l'activité de Dieu dans le Saint-Esprit. Oui, certaines personnes peuvent avoir une tendance régulière à se manifester dans un seul don, comme la prophétie, par exemple. Mais nous ne devrions pas permettre que cela nous limite et nous empêche d'accéder au Saint-Esprit. Pourquoi Dieu nous accorde-t-il ce don d'esprit? La réponse est en fait très facile et simple. 1 Corinthiens 12, verset 7 nous dit « À chacun est donnée la manifestation de l'esprit pour le bien commun. » Je crois que nous avons déjà écouté ça ce matin. Merci Pierre. En d'autres termes, la libération des dons est d'abord pour le bien de la communauté, de l'Église. C'est pour le bénéfice de chacun et de tous ici. La libération du don n'est pas pour l'individu qui manifeste le don, mais pour le reste de la communauté. C'est pourquoi elle se produit fréquemment lorsque nous nous réunissons. Les dons permettent donc au Seigneur de faire avancer son ministère auprès de son peuple. On permet aux gens de témoigner puissamment en parole et en acte. Par les dons, ils leur permettent d'exercer un ministère efficace les uns envers les autres. Peut-être à une personne, à plusieurs, ou l'ensemble du corps, car le Seigneur connaît et répond à nos besoins. Comme chaque personne exerce un don, le corps est édifié par son ministère dans l'Évangile. 1 Corinthiens 14, 26 se termine par les mots suivants. Que toi sois fait pour l'édification. Dieu veut que nous soyons fortifiés en tant que communauté. Et ainsi, lorsque les dons sont manifestés, l'Église est édifiée plus solidement. Cela signifie également que nous, en tant qu'Église, devons veiller à ce que l'utilisation des dons serve toujours à l'édification de l'Église et non à la décourager ou à lui nuire. Ça, c'est un nouvel mot pour moi. L'utilisation des dons est-elle réservée au rassemblement du dimanche? Non, certainement pas. Cependant, nous notons d'un point de vue pratique et pour faciliter la participation de tous que plus le groupe est grand, plus il est difficile d'attendre de chacun qu'il participe et manifeste le don. Paul enseigne à ce sujet dans l'épître aux Corinthiens où il recommande la participation individuelle dans des réunions d'une taille qui encourage les croyants à participer. L'Église primitive, je l'utilise ces mots, se réunissait en des multiples endroits, pas seulement au temple chaque dimanche ou chaque semaine. Elle se réunissait également dans les maisons des gens où elle pratique la communion fraternelle. Ainsi, lorsque nous nous réunissons chez des gens pour un groupe de vie, par exemple, le fait que l'environnement soit plus petit favorise la participation de tous. En fait, chaque fois que nous nous réunissons pour adorer le Seigneur, c'est une occasion pour l'Esprit de se manifester et pour chaque personne de participer, car c'est à cela que le Seigneur nous appelle. Il faut noter que tous les dons sont égaux et que tous les dons doivent être considérés comme donnant la même valeur dans l'Église et le corps. Nous ne devrions pas ignorer l'un ou l'autre pour quelque raison que ce soit. On pense souvent que le don des langues ne doit pas être promu, mais je crois qu'il y a un malentendu autour des langues. Les gens ont souvent peur de cela, de que cela signifie, et c'est compréhensable. Nous ne pouvons pas comprendre ce qui est dit. Paul dit dans 1 Corinthiens 14, 2, que les langues expriment des mystères dans l'esprit. Nous devrions prier pour que lorsque quelqu'un en parle en langue, quelqu'un s'avance avec l'interprétation des langues, afin que toute l'Église bénéficie et soit bénie par ces paroles. Il devrait en être de même pour chaque don. Nous devrions nous attendre à voir chaque don se manifester en sa présence lorsque nous nous réunissons et nous devrions nous réjouir lorsque chaque don est manifesté. Un dernier commentaire est point sur les dons et l'Église. Paul parle de l'amour. 1 Corinthiens 14, verset 1. Suif la voie de l'amour et désirez ardemment des dons spirituels. C'est à la volonté du Saint-Esprit que les dons sont manifestés, mais ils sont donnés à ceux qui les recherchent. Alors, que c'est à la volonté de Dieu que les dons sont donnés, si nous désirons ardemment les dons, alors nous recevrons. Cela nous ramène à notre préparation de la réunion de l'Église pour la culte. Nous devons venir préparer dans l'expectative et désir ardemment les dons qui seront donnés à votre participation à ceci. Dieu est toujours aux commandes et sait mieux que quiconque quelle manifestation te donne est le meilleur canal pour son ministère. Et enfin, l'amour. Les dons ne peuvent avoir aucune signification si nous ne l'exerçons pas dans l'amour. L'amour est l'un des fruits de l'esprit. Ils viennent de ce que l'esprit libère en nous lorsque nous accomplissons notre salut. Lorsque nous exerçons les dons avec amour, nous pouvons voir une pleine édification de l'Église et une pleine libération du ministère de Dieu en notre présence. En conclusion, l'Église est donc un lieu où nous exerçons les dons spirituels de Dieu. C'est ici que nous le voyons et les expérimentons. Mais pour ce fait, nous devons venir à l'Église préparés et dans l'expectative pour désirer ardemment les dons et être prêts à exercer le ministère dans l'amour. C'est ce que nous devrions faire chaque fois que nous nous réunissons. Préparons tous nos cœurs et nos vies en conséquence. Amen.